Donc, je vais déjà me présenter un petit peu. Oui, je n'ai pas eu sous les yeux la façon dont l'exposé a été annoncé. Donc, je ne sais pas ce que... Donc, personnellement, je suis Françoise Lorcerie. Je suis au CNRS à Aix-en-Provence, dans un laboratoire qui travaille sur le monde arabe et musulman. Que vient faire le monde arabe et musulman ici, parmi nous, dans ce stage sur les inégalités à l'école. Il a un rôle assez marginal, et je dois le dire, par rapport aux travaux que j'ai vus que vous avez menés déjà en jour 1 et en jour 2. Et en jour 3, vous avez déjà eu 3 jours de travaux, donc c'est un stage très, très important qui permet l'évolution des idées, qui vous permet beaucoup d'interactions entre vous, et donc riche, et consacré aux inégalités. Et moi, mon propos, quand je parle de monde arabe et musulman, de mon laboratoire et de ce que j'y fais, finalement, je travaille moins sur les inégalités que sur des singularités que nous trouvons dans notre société, que nous trouvons aussi dans notre école, et qui nous viennent finalement de la présence parmi nous de certains élèves, de certaines familles originaires de pays musulmans. Et les organisateurs de ce stage ont accepté, je ne sais pas ce qu'il faut dire, accepté ou décidé, il y a eu une interaction entre nous pour en décider, accepter l'idée finalement que je vous parle de d'une des questions que je me suis posée récemment, à savoir y a-t-il des élèves musulmans à l'école? Et cette question, je me la suis posée en réagissant à une réponse que je m'étais vue opposée par un inspecteur d'académie dans le terrain que je suis de le plus près, disons, c'est Marseille. À l'occasion d'une recherche que je faisais avec un collègue, Vincent Gesser, dans le cadre d'un programme européen portant sur 11 villes européennes, programme initié par la Fondation Soros. On est vraiment dans l'incorrect, hein. Donc la Fondation Soros avait lancé un programme dans 11 villes européennes pour connaître la position qu'occupaient dans ces 11 villes les musulmans. Et donc c'était un programme sur les musulmans dans les villes européennes qui s'appelait « At home in Europe », chez soi en Europe. Et la question était de chercher à comprendre quelle était la position des populations musulmanes, donc issues des flux migratoires, dans les sociétés urbaines d'Europe où ils sont nombreux. Comment se faisait ce qu'on appelle en France l'intégration ou l'incorporation? Quelle place ils avaient dans les différents secteurs de la vie? Est-ce qu'ils étaient satisfaits eux-mêmes? Et est-ce que les protagonistes des politiques publiques, en éducation, santé, logement, emploi, etc., on devait passer en revue l'ensemble des secteurs de l'action publique, est-ce que les responsables avaient pris la mesure des difficultés éventuelles? Qu'est-ce qu'ils en disaient, etc. C'était donc un programme qui avait pour catégorie de travail la catégorie musulman. Alors ça nous choque, évidemment. On a discuté avec Vincent Gesser pour savoir si on prenait ce programme, si on se posait comme candidat pour être l'équipe sur Marseille. Finalement, on s'est dit oui. Et à titre de, en étant très, très prudent sur la façon dont on fonctionnait, pour des raisons dont on va discuter dans cet exposé, et ça n'est pas facile d'utiliser la catégorie musulman comme catégorie pour objectiver certains types d'expériences sociales qui sont celles des personnes et certains types de politiques. Ça n'est pas facile. Nous nous sommes appuyés sur Maxime Rodinson quand il parle de la catégorie juif. Et il dit qu'est-ce qu'un juif? Il y a trois façons, trois sens que l'on peut distinguer pour la catégorie juif, et on peut transférer sans aucune difficulté pour la catégorie musulman. Un juif, ça peut être d'abord quelqu'un qui se réfère à une religion, qui est la religion juive, qui est un pratiquant de cette religion, donc un religieux, qui a une religion minoritaire dans la plupart des pays. Un juif, ça peut être quelqu'un qui n'a plus, qui n'a pas cette religion, pas ou plus, mais qui a, partage, se reconnaît une culture qui est en relation avec cette religion, une culture juive. Quelqu'un donc qui n'est plus religieux, mais qui a une culture juive. Et puis enfin, ça peut être quelqu'un qui n'est ni religieux peut-être, ni qui ne se reconnaît des affinités culturelles avec une certaine civilisation, une certaine façon d'être, mais que l'on identifie comme juif, c'est-à-dire quelqu'un qui se voit attribuer une identité juive par autrui. Et c'est le cas que l'on connaît bien, puisque Sartre lui a consacré son analyse hein, sur qu'est-ce qu'être juif, ben c'est être juif dans le regard d'autrui. Vous êtes vu comme, parce que vous en avez l'air, vous êtes d'apparence musulmane. Hein? Et vous avez quelques ingrédients qui permettent à celui qui interagit avec vous de se dire ben, que vous êtes musulman. Ces trois sens de du mot être musulman comme être juif méritent d'être soigneusement distingués quand on les manipule afin de ne pas commettre d'impair et d'injustice et de faute déontologique quand on est éventuellement praticien comme vous l'êtes. Et nous, par rapport à notre position de chercheur, nous, finalement, nous jouions sur une certaine ambiguïté. Donc il nous a fallu nous en accommoder. Parce que nous avions, finalement, de par la conception générale du programme, à nous demander quel était l'impact de la catégorie sociale musulman, donc de l'imputation d'islamité, si vous voulez, du fait d'être vu comme musulman dans la vie sociale, parce qu'après tout, qu'est-ce que ça a à voir avec la santé, être musulman ? Qu'est-ce que ça a à voir avec le logement ? Avec l'éducation, on peut en discuter. Mais bon, il y a plein d'aspects de la vie sociale où être musulman, ça ne devrait rien avoir à faire. Et pourtant, éventuellement, ça a à faire. Donc notre but, finalement, pour satisfaire le programme comparatif, et puis ça nous intéressait fort aussi, c'était de savoir, finalement, est-ce que la catégorisation sociale par être musulman a de l'impact dans l'expérience sociale des gens selon les différents aspects de la vie sociale et puis dans la façon dont les politiques voient les problèmes. Ça nous intéressait, donc c'était le sens 3 là hein, qui nous intéressait. Mais pour, par ailleurs, nous avions à utiliser un outil, on en avait 4 d'outils à utiliser, mais un de ces outils c'était une enquête par questionnaire. Un échantillon qu'il fallait constituer de façon égale de personnes musulmanes et de non-musulmans. Donc on avait 200 personnes à interviewer avec un questionnaire assez long dans un voisinage, ce qu'ils appellent un voisinage, c'est-à-dire un quartier resserré, les uns musulmans, les autres non-musulmans, les uns femmes, les autres hommes, le tout à égalité. Donc on avait 50 hommes musulmans, 50 femmes, 50 hommes non musulmans, 50 femmes, puis en variant les âges, en variant les statuts sociaux, enfin bon, un plan d'enquête assez précis pour avoir un échantillon relativement représentatif. Et cet échantillon, on a effectivement, en comparant avec les chiffres de l'INSEE disponibles pour l'endroit où on a pris nos interviewés, on est assez bien arrivé à le rendre plutôt représentatif. Alors, musulman dans quel sens, là ? Musulman dans le sens de l'autodéclaration. Mais une autodéclaration un peu biaisée, je vous dis tout, je vous dis le secret hein, de notre petite cuisine, une autodéclaration un peu biaisée par le fait que nous étions constitués une équipe d'enquêteurs, qui étaient nos doctorants ou des amis, qui étaient eux-mêmes d'apparence. On revient aux apparences et au rôle qu'elles jouent dans la société, parce qu'elles jouent un grand rôle, en fait, qui étaient eux-mêmes d'apparence musulmane, pour ceux qui allaient être enquêtés au titre de musulmans, avec, à Marseille, deux grandes populations, vraiment qui couvrent la grande majorité des populations musulmanes de Marseille, les Comoriens et les Maghrébins, notamment algériens. Donc nous avions ces deux grands, dans notre plan d'enquête, ces deux grandes population à investiguer. Et nous avions dans notre équipe un Comorien et une Comorienne d'origine, des Maghrébins et Maghrébines d'origine, qui avaient pour tâche de rencontrer des gens qui pouvaient les voir comme leurs ressemblants. Et qui pouvait donc franchir le barrage d'une certaine gêne, d'une certaine crainte, plus facilement que d'autres. Mais en même temps, sachant que du coup, à la question, on avait dans le questionnaire une question, quelle est votre religion? Avez-vous une religion? Et si oui, laquelle? Alors, les réponses à cette question pour la population qui était supposée être musulmane et qui avait été interviewée en tant que telle sont extrêmement convergentes, oui, ils le sont. Et très probablement, on n'aurait pas eu cette même convergence de réponses. Oui, ils ont eu une religion, c'est l'islam. Si les gens avec lesquels ils avaient interagi dans le questionnaire pour répondre n'avaient pas été visiblement de même origine. Voilà. Tout ça pour vous expliquer un petit peu le dispositif d'enquête sur la base duquel j'ai été amenée à demander un rendez-vous à l'inspecteur d'académie chargé de je vais en parler puisqu'il n'est plus en poste à Marseille, donc j'espère que vous ne savez pas qui c'est. Mais de toute façon, beaucoup auraient répondu comme ça. Il m'a répondu, nous n'avons pas d'élèves musulmans. Sachant qu'il y a environ le tiers de la population à Marseille qui est musulman, d'origine ou de culture, de nom, auquel on peut imputer par conséquent un lien avec l'islam, et que, bah, comme dans une grande ville, c'est 850 000 habitants à Marseille, donc un peu le tiers, 30% au tiers, c'est le chiffre de la mairie, hein, donc un peu sous-évalué, ça fait quand même du monde, hein, qui peut se sentir musulman et qui peut être considéré comme musulman, qui dans sa vie quotidienne peut être traité comme musulman. Donc voilà, de la part de cet inspecteur d'académie, un refus. On a discuté longuement au téléphone, vraiment un long entretien au téléphone, mais il n'a pas bougé de sa position de dire on n'a pas d'élèves musulmans. Alors, en poursuivant l'enquête, j'ai eu des entretiens avec des chefs d'établissement, avec une inspectrice de l'éducation nationale, elle-même d'ailleurs d'origine algérienne, avec des gens qui occupent des positions hiérarchiques dans l'éducation nationale, qui ont accepté d'entrer dans cette enquête. Peut-être d'autant plus facilement que c'était une enquête européenne et que d'autres villes, d'ailleurs Paris aussi, mais d'autres villes à l'étranger faisaient la même enquête et que c'était intéressant de pouvoir comparer les résultats. Mais je retiens donc au départ l'idée « il n'y a pas d'élèves musulmans ». Cette idée, elle est le propre de certains membres de la hiérarchie de l'éducation nationale, et elle n'a pas que des inconvénients, je veux le dire tout de suite, ce que le propos qui est le mien ici n'est pas du tout, manichéen, il y a la bonne position puis la mauvaise, pas du tout. C'est vraiment pour vous faire réfléchir, et je suis consciente que ça vous fait réfléchir dans une dimension qui n'est pas centrale dans ce stage sur les inégalités et la gestion des inégalités. Hein. Juste pour vous permettre de réfléchir sur une dimension qui, pour n'être pas centrale, parasite assez souvent quand même le discours qu'on peut avoir et l'appréciation qu'on peut avoir des inégalités. Cette idée, donc, qu'il n'y a pas d'élèves musulmans, alors qu'on en a, disons, dans les quartiers nord de Marseille, quelque chose comme 70%, 80%, ça dépend des proportions, des classes, mais bon, on en a beaucoup. Elle a eu un côté protecteur, je m'en suis aperçue quand j'ai travaillé sur la politisation du voile en 2003. Vous vous souvenez de cet épisode d'effervescence qui a eu un rôle extrêmement important dans l'évolution de notre débat public, hein, puisque à cette occasion-là, finalement, on a vu s'ouvrir toutes les portes, toutes les autorisations, on a pu dire véritablement des insultes à l'égard de l'islam, et c'est resté. Hein. Les hommes politiques s'autorisent maintenant à insulter l'islam en tant qu'islam, les musulmans, en prenant à peine des précautions pour dire que oui, mais ils ne parlent pas de tout le monde, ils parlent que des intégristes, des radicaux, etc. Mais on se demande où s'arrête l'intégrisme parfois. En tout cas, au moment de cette effervescence où, avec l'emballement médiatique, on a vu fleurir des affirmations, des énoncés dans toutes sortes de bouches autorisées, très négatifs à l'égard de l'islam, moi ça m'a frappé qu'en regardant très particulièrement ce qui s'était passé pour l'éducation nationale, on le peut parce que la mission Debré, la mission parlementaire Debré, qui a doublé la commission Stasi, mais dont les auditions n'étaient pas publiques, elles sont par contre sur le net, a reçu en audition des cadres de l'éducation nationale, et elle a fait des auditions groupées par groupe de gens qui avaient quelque chose à voir. Par exemple, une audition groupée des chefs d'établissement qui avaient eu chez eux des affaires de voile à gérer, ou bien des recteurs qui avaient eu des questions de voile dans leur académie. Le DGESCO a été auditionné. Les mouvements, les grands mouvements laïques de l'éducation nationale et des syndicats ont été auditionnés. Lisez ces auditions, puisqu'elles sont encore maintenant dans Internet, vous verrez que les cadres, et notamment le DGESCO c'était de Godemar, hein, les cadres de l'éducation nationale, les ministres ont été auditionnés. Vous vous souvenez qu'on avait deux ministres, Luc Ferry en titre et un ministre délégué d'Arcos. Luc Ferry était très sceptique par rapport à une loi. Et dans l'ensemble, les cadres de l'éducation nationale étaient fermement opposés à une loi. Fermement opposés, en disant on n'a pas besoin de loi, ça ne peut qu'aggraver la situation et on gère. De fait, on gérait. Je vous rappelle les chiffres. Il y avait, je les ai relus récemment, c'est pour ça que je les ai en tête, le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, sur la foi du rapport des renseignements généraux, disait, puisqu'on ne comptait pas les filles ayant des foulards, puisqu'elles étaient autorisées à l'époque, on ne les comptait pas, mais sur la foi des renseignements généraux, il disait, il y avait 1256 filles portant le foulard dans cette année 2002 ou 2003, je ne sais plus si c'était pour 2002-2003 ou 2003-2004, peu importe. 1256 filles portant le foulard, il y avait eu une vingtaine de problèmes et il y avait eu 4 exclusions. 4 exclusions, vous qui êtes des professionnels du système, ça vous fait rire, parce que c'est des milliers d'exclusions par année qu'on a dans notre système. Entre les collèges et les lycées, c'est des milliers. 4 exclusions pour port du foulard, c'est-à-dire des endroits où, décidément, la transaction ne s'était pas faite entre les filles et les équipes d'enseignants, et où il y avait eu un clash, hein, qui avait résulté sur l'expulsion de l'élève. Donc c'était très peu de choses, en fait. Ils n'avaient donc pas trop tort, les cadres de l'éducation nationale, de dire, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de problème. Notre problème à eux, ils étaient sur des positions managériales. Leur problème à eux, c'était de moderniser l'éducation nationale. Et c'était de faire avancer leurs réformes. Et le DGESCO, cité dans mon état, ce que j'ai fait à ce sujet, je l'ai cité parce que c'était très typique, il disait, on n'en veut pas. Ça nous gêne parce que notre réforme, etc., donne des responsabilités aux établissements pour précisément régler ce genre de problème et bien d'autres. Et nos chefs d'établissement savent faire. Donc, pas de loi, s'il vous plaît. Donc, ils n'ont pas été entendus. La Ligue de l'enseignement était sur la même position, a essayé de faire tenir bon les syndicats sur cette position. Il est à peu près arrivé, mais ils n'ont pas été entendus, vous le savez bien, et nous avons eu la loi. Mais pour ce qui me concerne ici, cette entrée en matière sur y a-t-il des élèves musulmans, je dis tout de suite que la question non, il n'y en a pas, la réponse non, il n'y en a pas, elle n'est pas inintéressante. Hein. Je n'ai rien à faire, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient ce qu'ils veulent, c'est des élèves et je les traite en tant qu'élèves. C'est intéressant donc de garder cette idée que la réponse n'est pas mauvaise, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à la question. Voilà, c'est mon point de vue et c'est là que je voudrais vous embarquer. Ça ne nous empêche pas de réfléchir à la question, y a-t-il finalement, oui ou non, des élèves musulmans, et est-ce que c'est intéressant pour nous d'en savoir un peu plus sur cette question? À mon sens, oui, c'est intéressant d'en savoir un peu plus sur cette question, sur la façon dont les élèves sont musulmans, et finalement de réfléchir à qu'est-ce que ça nous amène à penser. Et premier point, donc, que je voudrais développer, c'est une question sensible. Deuxième point, ça sera en quoi ça nous concerne. C'est une question sensible parce que pour plusieurs raisons, mais un grand point de vue général sur le côté sensible de la question, il a trait à ce qui est, on pourrait dire, l'éthos, E-T-H-O-S, l'éthos, la façon d'être profonde de notre système éducatif. Dans notre système éducatif, c'était le cas jusqu'à il y a, disons, 20 ans, surtout dans les lycées, et puis on a vu les choses se développer, se déployer, toucher pareillement les collèges, puis même les écoles, alors qu'auparavant dans les écoles, me semble-t-il, et ça c'est vraiment des choses à discuter, on avait une approche des élèves plus personnalisée, plus affective, etc. Il me semble qu'on a vu se répandre dans le système éducatif depuis le haut, si je peux dire, en tout cas les classes de lycée jusqu'en bas, voire même les maternelles, une disposition des professionnels de l'école à considérer que les élèves sont des élèves et pas des enfants, et qu'ils n'ont pas affaire à des personnes, donc ils ont affaire à des élèves. Ils ne veulent pas connaître l'enfant dans l'élève. Ça veut dire quoi? Ils n'ont rien à faire avec l'identité privée des individus qu'ils ont devant eux. Pour eux, ils entrent dans leur déontologie de se dire qu'ils n'en ont rien à faire, ils ne doivent pas la connaître. S'ils la connaissent, tant pis, mais en gros, c'est pas important pour les apprentissages que de savoir des choses sur les identités privées des élèves. On ne cherche pas à les savoir ou à les aider dans cette dimension-là d'eux-mêmes. C'est très frappant, le contraste avec d'autres pays à ce sujet, notamment l'Angleterre. On a une bonne thèse de Maroussia Ravo qui compare les écoles maternelles en Angleterre, et en France. Et elle montre à quel point le corps de l'enfant, les affects de l'enfant sont plus présents dans les écoles maternelles anglaises que dans les écoles françaises, même maternelles. L'enfant apprend très tôt à devoir finalement se discipliner, au sens de mettre de côté ses identités privées, ses éléments identitaires, et puis ses affects. Elle le lie avec l'importance qui est accordée traditionnellement dans notre école républicaine à la notion de citoyenneté, mais en même temps, de façon très curieuse, et c'était un impensé dans sa thèse, parce qu'elle a fait toute sa thèse autour de cette idée qu'en France, ben oui, on laisse de côté tout ça, mais c'est parce qu'on donne beaucoup d'importance à la citoyenneté. Dernière ligne de la thèse, du moins telle qu'elle est éditée, oui, mais la République n'est plus qu'un fantôme dans l'école française. En fait, plus personne ne croit trop à sa mission civique, et plus personne ne s'y réfère pour régler ses comportements. Bon, là aussi, on peut en discuter. Alors, mis à part cette grande habitude non pensée que nous avons de refuser de voir des personnes dans nos élèves, en quoi la question de les élèves musulmans, y a-t-il des élèves musulmans, est-elle sensible? Je dirais qu'elle est peut-être d'abord sensible en raison de la laïcité. En tout cas, c'est une objection qu'on peut trouver. C'est la laïcité qui nous interdit de. Alors, ce petit point juste pour faire une rectification que vous avez peut-être fait déjà de vous-même. La laïcité est l'objet actuellement d'une intense politisation, d'un conflit d'interprétation entre la laïcité de droit, le droit de la laïcité, et la laïcité idéologique. Malheureusement, nous entendons à l'école beaucoup la laïcité idéologique, c'est celle, je dirais, de Pénaruiz, par exemple, parce que la laïcité qu'il préconise n'est pas la laïcité de droit, la laïcité qui fait partie de notre système institutionnel, qui dirige les arrangements institutionnels dans notre pays. Selon le Conseil d'État, c'est quand même une bonne source, le Conseil d'État, c'est donc le collectif le plus élevé dans l'ordre judiciaire administratif en France. Selon le Conseil d'État, qui nous a livré en 2004, dans son rapport annuel, une grande analyse de la laïcité, qu'il faut lire, il écrit « La laïcité doit se décliner », c'est une citation, en trois principes, ceux de neutralité de l'État, de liberté religieuse et de respect du pluralisme. Page 245. Et un juriste qui n'est pas lui non plus soupçonné de se tromper, parce que c'est dans un dictionnaire consacré au droit des religions, qui vient de paraître aux éditions du CNRS, précise « Sur le plan du droit, le terme de laïcité désigne essentiellement la neutralité religieuse de l'État, donc de nous, lorsque nous sommes des praticiens de l'éducation. On y inclut aussi l'absence de discrimination, donc l'égalité, et la liberté en matière religieuse. Par contre, le concept juridique de laïcité n'inclut pas, contrairement à ce que pourrait laisser penser le discours politique, un prétendu principe d'exclusion de la religion hors de la sphère publique, ni ne postule l'indifférence, et là il met des guillemets parce qu'il se réfère à des choses qu'on entend hein, et qui sont écrites aussi parfois, ne postule l'indifférence, ni l'ignorance ou l'incompétence de l'État à l'égard des religions. Ces principes, souligne encore le Conseil d'État, ne sont pas spécifiques à la France. Il a des mots assez clairs là-dessus, en disant qu'on dit parfois le concept de laïcité est intraduisible. Peut-être, nous dit-il, mais ça ne veut pas dire que la réalité de la laïcité est inconnue des autres. Au contraire, c'est dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est placée sous la sauvegarde de la Cour européenne des droits de l'homme, comme vous le savez, qui garantit que ce système-là ces grands principes sont réunis dans tous les membres du Conseil de l'Europe. Le Conseil d'État continue donc, on peut parler d'une exception française parce qu'il y a le mot, mais elle ne peut être, je cite, elle ne peut être que relative, la vraie question étant celle, si l'on se compare avec le reste du monde, de savoir comment, dans chaque État, sont reconnues et assurées la liberté de conscience et la liberté de religion, ce qui suppose bien sûr que les rapports entre les Églises et l'État soient organisés d'une manière garantissant l'exercice de ces libertés. Conseil d'État, toujours même page. C'est amusant parce que parfois j'ai discuté avec des collègues pour savoir si le Danemark était un pays laïque. Le Danemark a une religion d'État, le luthérianisme, et un ministère de l'Église qui s'occupe spécialement de ça. Et pourtant, il participe à la laïcité, entendu au sens de l'aménagement des institutions, de telle sorte que, quelles qu'elles soient, elles assurent la liberté de religion à tout le monde et l'égalité de traitement de toutes les religions. Donc, au Danemark, ils font ce qu'ils peuvent pour compenser le fait qu'il y ait une religion d'État, en assurant des libertés aux autres cultes, églises et religions, quelles qu'ils soient. Bon, de fait, donc, dans les pays démocratiques, on est obligé de dire, comme Bobéro et Micheline Millot, qu'il y a bien des arrangements de la laïcité dans notre pays, pour ne parler que de lui. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bah, on a l'Alsace-Lorraine, que certains considèrent comme non laïque, mais d'autres considèrent comme, au contraire, une version intéressante de la laïcité qui peut permettre des issues à certains problèmes qu'on ne sait pas trop résoudre. En particulier, il était question de s'appuyer là-dessus pour donner une forme de présence dans le système de formation français à une formation des imams. La fameuse formation des imams qui est rendue nécessaire par la situation, puisqu'effectivement, la religion musulmane, ils sont incapables de s'organiser pour l'instant pour faire une formation digne de ce nom, des imams qui opèrent en France, et un Français qui intervient dans la religion musulmane, aurait-elle été nécessaire, parce que nous avons un système qui prévoit le recours aux imams dans les prisons. Il y a une aumônerie musulmane en prison qui est prévue. Dans les armées, elle est prévue aussi, et là, ils se sont bien débrouillés, elle marche bien. L'aumônerie musulmane dans les armées est dirigée par un général. L'aumônier général a le grade de général. Il existe. Il y a un général qui coiffe l'aumônerie musulmane dans les armées. Et les soldats en opération, qui sont une proportion non négligeable de nos soldats en opération, hein, je pense un quart à peu près, 21%, des gens qui sont par exemple en Afghanistan ou dans les autres opérations, ont des barquettes halal s'ils le veulent. Ils y ont droit. Donc on a quand même des arrangements qu'on méconnaît parfois, mais qui existent. Mais des arrangements, voilà. Retenons l'idée que finalement la façon dont les États peuvent s'accommoder du principe de laïcité est souple. Et il n'y a pas une seule formule de laïcité. L'important, c'est les trois principes que j'ai cités au départ. Neutralité de l'État, liberté de religion, égalité de traitement des cultes. C'est ce qui fait que dans son avis qui a déclenché en fait toute une série de débats et puis finalement qui a abouti à la loi de 2004, du 15 mars 2004 pour interdire le port du voile à l'école. Au départ, la position du Conseil d'État était favorable au port du voile, mais pas favorable par défaut, favorable avec en s'appuyant sur une interprétation forte de nos principes de base, à savoir le principe de la, je cite, le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la laïcité de l'État et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants, et d'autre part, de la liberté de conscience des élèves. La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires dans le respect du pluralisme et de la liberté d'outils et sans qu'ils soient portés atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité. C'est son avis du 27 novembre 89 en Assemblée Générale. Un avis important donc dans lequel ce qui a choqué ces deux choses... Et l'avis, on peut le dire, n'a pas été compris. Il n'a pas été défendu par les pouvoirs publics. Ils l'ont accepté du bout des lèvres. Et en essayant de faire pression pour que les choses évoluent lorsque la droite est arrivée au pouvoir en 93. Mais enfin, deux choses qui ont troublé. C'est d'une part cette acception libérale de la laïcité. On nous disait, alors que nous avons cet éthos scolaire dont j'ai parlé au début, qui est contraignant plutôt, et qu'on réfère facilement à la laïcité, on apprenait brutalement que cet éthos contraignant, ben, ce n'était pas la laïcité qui lui obligeait. La laïcité, elle était libérale, elle dit aux gens, vous avez des droits, exercez-les. Premier point de surprise. Deuxième point, les élèves ont des droits. Les élèves sont des sujets de droit. Là, c'est assez bouleversant. C'est pas exactement la façon dont... Même si je marche sur des œufs, là, je sais bien à qui je parle, mais bon, les droits des élèves, c'est quand même des choses avec lesquelles on s'accommode assez facilement dans les établissements scolaires. Donc, un avis qui a rencontré une incompréhension et qui a débouché sur des conflits aux politiques conduits par la droite proche de Jacques Chirac, du président de la République de l'époque, avec quelques experts dont certains sont encore à la manœuvre aujourd'hui au Conseil à l'intégration, pour réduire les droits assortis à la laïcité, notamment dans l'espace scolaire. Et puis maintenant que c'est fait dans l'espace scolaire, nous en sommes au trottoir et aux autres espaces de notre société. Donc on continue. Cette partie-là, en tout cas, de l'opinion publique, bien ancrée à droite, et puis également pas ignorée à gauche, loin s'en faut, continue son travail de sape de ce caractère libéral de la laïcité. Vous comprenez que je ne suis pas sur cette position-là. Excusez-moi d'être engagée. La position contraire était défendue par la Ligue de l'enseignement dans des termes tout à fait intéressants, mais elle n'a pas été véritablement entendue et elle n'a pas permis de maîtriser la situation en 2003-2004 et encore maintenant. Sensible donc, c'est par erreur qu'on réfère le côté sensible de la question « Y a-t-il des élèves musulmans ?» à la laïcité. Mais on le fait d'autant mieux, référé à la laïcité, que notre interprétation de la laïcité a changé dans le sens maintenant de la défense de l'identité nationale. Et plus largement, la question de l'islam en France et la question de la laïcité en France est devenue une question politique, est devenue extrêmement politisée dans le débat, une question politique qui touche à beaucoup de choses qui sont finalement l'objet de peurs assez largement répandues dans la population, d'autant que notre pays, vous le savez bien comme d'autres à côté, affronte une période extrêmement angoissante, effectivement, de crises de toutes sortes, de panne de l'Europe, une crise donc qui dépasse de beaucoup la présence de l'islam dans nos pays. Mais toujours est-il que cette interprétation restrictive de la laïcité se légitime au nom du combat contre l'islam, et ce de façon éclatante depuis la commission Stasi et l'effervescence de la période de deuxième partie de l'année 2003. Regardez maintenant, vous venez d'entendre la définition du Conseil d'État pour la laïcité. Regardez la définition que l'on trouve dans le rapport Stasi. On l'avait déjà trouvé amorcé dans le rapport Barouin qui avait précédé de quelques mois le rapport Stasi. Le rapport Stasi date de décembre 2003. Il a été préparé par quelques mois donc d'audition publique et de préparation de l'opinion à une position restrictive sur les droits des élèves, en particulier les signes d'islam. La définition de la commission Stasi est la suivante, page 36, je cite, « La laïcité est le produit d'une alchimie entre une histoire, une philosophie politique et une éthique personnelle. Elle repose sur un équilibre de droit et d'exigence. Le principe laïque est conçu comme la garantie de l'autonomie et la liberté de chacun de choisir d'être lui-même. Il suppose une attitude intellectuelle dynamique à l'opposé de la posture paresseuse de la simple neutralité. C'est un problème qui va au-delà de la question spirituelle et religieuse pour concerner la société dans toutes ses composantes. La laïcité touche ainsi à l'identité nationale, à la cohésion du corps social, à l'égalité entre l'homme et la femme, à l'éducation, etc. C'est une définition d'autant plus curieuse qu'elle est écrite par un juriste, pas n'importe lequel, Rémi Schwartz, commissaire du gouvernement au Conseil d'État, conseiller d'État au top de la hiérarchie du Conseil d'État, et qui manifeste là son hostilité à la position majoritaire du Conseil d'État. Il y avait donc des minorités au sein du Conseil d'État, des gens très importants qui ont été mis en minorité par la délibération collective sur des bases juridiques. Les gens du Conseil d'État, les conseillers d'État, ne sont pas des rigolos. Ce sont des vieux messieurs en général ou des messieurs moins vieux, mais qui sont très sérieux et qui n'ont pas du tout la rébellion en bandoulière. Hein. Je veux dire, ils sont véritablement imbus de droit. Il m'est arrivé d'avoir des relations de pouvoir échanger avec M. Denoy de Saint-Marc, c'est quelqu'un qui vous en impose. Hein. Ce n'était donc pas par un point de vue à la Pénarus qu'ils avaient mis leur position libérale, c'était pas la philosophie qui les amenait à penser ça. Non, c'était en analysant le droit qui s'était rallié à l'idée que, après tout, bah oui, la laïcité, c'était ça. Ils avaient rencontré une opposition dont nous ne savions rien, sauf que nous nous doutions bien qu'elle existait. Quelqu'un comme Bellorger, hein, Jean-Michel Bellorger, autre conseiller d'État, le faisait savoir. Elle existait, elle trouvait l'appui de deux personnalités, comme l'une, c'est Rémi Schwartz, l'autre est intervenu également dans la commission Stasi, et il a eu un grand rôle dans le retournement de la commission, c'est Jean-Paul Costa, qui était à l'époque un autre conseiller d'État, mais appartenant à la Cour européenne des droits de l'homme. Il vient de prendre sa retraite. Il a pris sa retraite comme président de la Cour européenne des droits de l'homme. Il a présidé la Cour européenne des droits de l'homme pendant 10 ans. Et il a donc eu un grand rôle devant la commission Stasi en disant « Vous craignez d'être contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Ben, » Effectivement, si on regarde le texte, la lettre de la Convention, c'est contraire. Mais en même temps, ne soyez pas contraire, si vous passez une loi d'interdiction, eh bien, la Cour considérera que le tribunal, donc jugeant en termes en posant un jugement, considérera que c'est une interprétation de la laïcité française et que l'État français a le droit de faire cette interprétation. Donc, distinguant la lettre de la Convention de l'action de la Cour pour juger de l'application de la Convention par un État, en accordant une grande marge d'interprétation aux États. C'était la position de la Cour qui avait été précédemment argumentée pour soutenir la Turquie, qui interdisait à l'époque le port du foulard aux étudiantes à l'université, et qui avait donc refusé d'accéder au droit d'une étudiante turque d'être étudiante avec un foulard en Turquie. À cette occasion-là, la Cour avait dit ben, les États ont une marge d'interprétation, à eux de distinguer ce qui est bon ou mal pour eux dans le cadre de la Convention. Ils ne sont pas, ils ne vont pas à l'encontre de la Convention quand ils le font. Donc, Costa comme Schwarz ont eu un grand rôle dans le retournement de la commission Stasi qui a permis d'arriver à la décision d'interdiction du voile à l'école. Et c'est intéressant de le voir et ils s'appuient pour cela sur une définition de la laïcité qui n'est plus du tout la définition juridique mais qui se rapproche complètement d'une définition à la Marine Le Pen, hein, une définition par l'identité nationale, c'est-à-dire en gros... Si on simplifie en faisant sortir le caractère scandaleux du point de vue juridique de cette définition, ce qui n'est pas dans nos habitudes est contraire à la laïcité. C'est ça cette définition. Hein. La laïcité touche ainsi à l'identité nationale, à la cohésion du corps social, c'est-à-dire telle qu'elle est auparavant, avant les flux migratoires et avant l'arrivée des gens musulmans, à l'égalité entre l'homme et la femme, c'est-à-dire l'islam, et à l'éducation. Ce qui n'est pas dans nos habitudes est contraire à la laïcité. Nous n'allons pas changer nos habitudes pour satisfaire aux droits de la laïcité qui nous obligerait à les changer. C'est ce que nous dit cette proposition et c'est sur ce thème, vous le voyez bien, que nous sommes restés dans la discussion qui a eu lieu encore, qui a refleuri à l'occasion de la campagne présidentielle, la discussion sur la laïcité et ce que nous n'acceptons pas de faire. Au moment de la commission Stasi et de la discussion en 2003, on ne parle pas trop directement de l'islam, même si on en a parlé beaucoup dans le débat. On en parle discrètement là. On parle j'ai envie de dire, on en parle par insinuation ou comme disait Régis, par prétérition. Par exemple, on parle des territoires perdus de la République, en ces termes, les quartiers et les habitants, dans ces termes. Les habitants arrivés sur le territoire national au cours de ces dernières décennies, donc on ne dit pas qu'ils sont musulmans, ont toute raison de prêter une oreille bienveillante à ceux qui les incitent à combattre ce que nous appelons les valeurs de la République. Car il faut être lucide, oui, des groupes extrémistes sont à l'œuvre dans notre pays pour tester la résistance de la République et pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs. Vous voyez que rien ici ne parle d'islam et de musulmans. Hein. Relisez, vous n'avez ni immigré, ni islam, ni musulman. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. C'est bien d'intégrisme supposé, c'est bien de l'idée, il y a des groupes, c'est ce qui amène aujourd'hui l'opinion publique à accepter l'arrestation de gens dont on nous dit, ils sont peut-être pas, ils menacent de se radicaliser. Ils ont envie d'aller en Afghanistan. On les arrête pour ça. Ils sont soupçonnés d'avoir envie d'aller en Afghanistan. On les arrête. C'est exactement le même raisonnement. Nous sommes menacés, attention, nous sommes menacés à l'intérieur de nos quartiers. Des groupes extrémistes, oui, des groupes extrémistes sont à l'œuvre dans notre pays pour tester la résistance de la République. Nous sommes toujours là avec la plume de Rémi Schwarz pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs. On est dans l'insinuation, mais une insinuation que tout le monde sait décrypter, tout le monde sait lire. Bon, cette vision de l'islam, là je reviens à mon rôle de sociologue, cette vision de l'islam est contredite par tout ce que nous savons sur l'islam et les musulmans en France, d'une part, en Europe, d'autre part, tout. Tous les travaux d'enquête sur les musulmans et l'islam en Europe, cite une pelletée, c'est pas la peine de disent que les musulmans européens sont des membres des sociétés européennes et sont des membres qui participent aux sociétés européennes et qui en partagent les valeurs, qui n'ont pas une interprétation extrémiste et radicalisée de leur religion. Et s'il vous plaît, ne prenons pas le cas de Mohamed Merah comme un cas sociologiquement explicable. Il y a des fous partout, y compris des gens qui ont été élevés dans des familles musulmanes. À vrai dire, donc, la thèse d'une radicalisation en masse et d'un risque de radicalisation ou d'enfreinte des lois par les musulmans est sociologiquement improbable. Les gens sont venus pour vivre chez nous et pour y bien vivre, et ils n'ont aucun intérêt, même en termes rationnels, si on se contente d'une approche instrumentale des choses, ce qui n'est pas suffisant en l'occurrence. Mais quand même, on voit bien que d'un point de vue rationnel, ils n'ont aucun intérêt à aller à l'encontre des sociétés dans lesquelles, au contraire, ils font tout ce qu'ils peuvent pour progresser et pour avoir une mobilité ascendante. C'est ce qui explique le fait que les musulmans qui parlent chez nous, vous savez qu'ils sont rares, hein, rares, sont les musulmans qui prennent la parole en public au nom des autres. Il y a beaucoup de fragmentation dans le milieu musulman et il y a peu d'institutions qui permettent de parler au nom des autres. Mais enfin, on a maintenant le CFCM, le Conseil français du culte musulman, avec un président qui est diplomate et aimable et prudent et qui s'exprime un peu dans les médias. Il a fait paraître une libre opinion dans le monde. À l'occasion de la dernière campagne, en demandant le droit à l'indifférence. Le droit à l'indifférence, hein, pour les musulmans et pour l'islam. Mais il y a quand même deux chefs d'accusation qui sont soulevés à l'égard de l'islam et qui ont la vie dure, l'accusation d'inégalité entre l'homme et la femme et l'accusation de confusion du politique et du religieux. Ces accusations ne se révèlent pas fondées socialement à l'enquête, hein, mais on peut trouver des versets du Coran, qui disent « Ah ben oui, mais le Coran le dit, quoi. » À l'école, nous avons une certaine sensibilité à ces idées, quand même. Il y a eu, pour ne pas parler du rapport Aubin, dont vous avez peut-être entendu parler, hein, un rapport qui, à la suite de la commission Stasi, donc faisait le tour, ou disait qu'il faisait le tour des questions de présence de l'islam à l'école, et en faisait un rapport assez inquiétant, un petit peu analogue au territoire perdu de la République. Ce rapport n'a pas été diffusé par l'inspection générale, ou en tout cas avec beaucoup de réticence. Finalement, le ministère l'a mis sur son site, puis il a fini par être publié sur papier par les soins d'Alain Sexig, qui est un activiste de la laïcité restrictive et hostile à l'islam, et qui continue d'ailleurs à agir en ce sens actuellement. Mais le ministère de l'Éducation nationale est assez sensible, et j'ai vu dans les textes, dans les façons que vous avez eu de remplir le questionnaire initial du stage, que vous aussi vous êtes assez sensible à cette question du sexisme et de l'inégalité des sexes. Il y a, en tout cas, on peut en discuter et ça serait intéressant. Mais le ministère, une des actions qu'il met en place pour lutter contre les discriminations, c'est l'éducation contre le sexisme. Et c'est-à-dire que les discriminations sont le fait des élèves et les élèves sont sexistes. Ils sont sexistes puisqu'ils sont musulmans. Bon, ben, on ne le dit pas, mais on le sait bien. Et du coup, on leur donne des actions, à Marseille en tout cas, initiées par Ni Pute Ni Soumise, et que les élèves savent très bien décrypter. Il y en a marre, madame. Pourquoi toujours nous ? On nous présente comme victimes des grands frères, etc. Il y a une partie, en tout cas, des élèves qui sont assez critiques et assez grassants à l'égard de ces actions qui visent à soutenir les filles par rapport aux garçons, alors qu'il se trouve que dans l'école, les garçons sont vraiment les mal-aimés, si vous voulez. On a beaucoup d'indices de ça, que les garçons sont vraiment les mal-aimés, que les résultats des garçons sont bien plus inquiétants que ceux des filles, et que s'il faut soutenir certains à l'école, du point de vue du sexe, c'est les garçons, c'est pas les filles. Les filles s'en sortent pas trop mal, aussi bien au point de vue moral qu'au point de vue cognitif. Par rapport aux garçons. Enfin, plutôt, ce qu'il faut dire, c'est plutôt que les garçons s'en sortent très mal. Donc là, c'est vraiment inquiétant. Ben oui, c'est quand on a les chiffres, hein, 30% des cohortes de garçons d'origine maghrébine finissent leur scolarité sans diplôme. 30% au bout de 10 ans, 12 ans d'école. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup moins chez les filles. Est-ce que c'est typique des garçons d'origine maghrébine ? Je sais que vous en avez discuté et j'adhère. Non, c'est pas typique des garçons d'origine maghrébine. C'en est que plus grave. Tous les enfants de même milieu, c'est-à-dire très populaire ou populaire, sont dans cette situation, les garçons. Nous avons une école qui met de côté les garçons de milieu populaire. Ça, c'est un vrai problème. mais je sors de mes... Je reviens à la question de la sensibilité du sujet. Sensibilité, je vais aller plus vite là, pour des questions techniques. C'est clair que c'est difficile de traiter, de faire un sort pédagogique à des questions aussi intimes et aussi délicates que les affiliations à la religion ou les sensibilités pour la religion, du moins le croit-on. On le croit, et ça se trouve à l'enquête, certaines thèses le montrent, la gêne. Des thèses ou des rapports, comme celui de Benoît Falaise, auprès des professeurs d'histoire géo de l'Académie de Versailles, la gêne par rapport à des élèves que l'on sent intéressés par certaines questions quand il s'agit d'islam, quand il s'agit de colonisation, etc. L'idée qu'on ne va pas être capable de répondre, que ça va provoquer du désordre, etc. Et pourtant, des avancées qui ont été faites, je pense en particulier à la mise en place du thème de la Méditerranée au XIIe siècle en seconde, thème qui a maintenant disparu avec la réforme du lycée, mais qui conduisait apparemment dans les classes, aussi bien du point de vue des élèves que du point de vue des enseignants, à des développements d'un très grand intérêt, les élèves étant passionnés et les professeurs portés par l'intérêt des élèves, très intéressés aussi. Je passe à la deuxième partie de mon exposé parce que je me dis que je prends trop de temps. Hein. Oui. Un quart d'heure ? Voilà. Deuxième partie de mon exposé, une question à ne pas éluder, malgré tout. Y a-t-il des élèves musulmans à l'école ? Une question à ne pas éluder parce qu'elle concerne les missions de l'école. Premier point, j'ai trois points dans cette dernière partie, mais que je vais évoquer rapidement parce qu'en fait, ils ouvrent le débat. Finalement, les éléments d'information que je devais donner étaient plus dans la première partie. Premier point, il y a des élèves musulmans. Il y en a parce que ça importe à une partie de nos élèves d'être musulmans. Combien ? Plusieurs enquêtes, aussi bien en milieu lycéen qu'en milieu non lycéen, dont la dernière dont je vous parlais, que nous avons faite avec Vincent Gessert, à Marseille, montre que l'on peut estimer à 1 sur 2 environ des gens auxquels on peut imputer une relation avec l'islam sur la base du sens 3 de musulmans, une moitié d'entre eux place l'islam parmi les dimensions importantes de leur identité, considère que la religion est importante pour eux. En conséquence, donc, quand on a des classes avec beaucoup de gens dont on peut se dire qu'ils ont quelque chose à voir avec l'islam, effectivement, on peut se dire que pour une moitié d'entre eux, c'est important. Et pour l'autre moitié, ça c'est la découverte de l'enquête qualitative sur le terrain, pour l'autre moitié, sans être important pour eux-mêmes, c'est important que les autres ne soient pas humiliés dans cette dimension d'eux-mêmes. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'à Marseille, vous savez que le maire de Marseille s'est engagé sur la construction d'une grande mosquée. Débat. Faut-il une grande mosquée alors qu'on a des petites mosquées ou des petits lieux de culte de proximité ? Est-ce que c'est pas ça que les pratiquants veulent ? Ben oui, les pratiquants, ils veulent des petites mosquées pour pratiquer. Mais justement, ceux qui veulent la grande mosquée, c'est pas forcément des pratiquants. À ma grande surprise, je dois dire, j'y avais pas pensé, j'ai jamais entendu l'argument non plus soulevé. Mais les gens qui sont en faveur de la grande mosquée à Marseille sont des musulmans au sens 3 qui ont envie de voir reconnaître dans l'espace public, dans le paysage, de même qu'il y a la bonne mère sur tous les timbres, sur toutes les photos, etc. Ils aimeraient voir un paysage quand même où il y a une certaine place faite à l'islam. Et la secrétaire de l'association qui s'occupe de la grande mosquée, s'en occupe pas très bien parce que la grande mosquée ne fait aucun progrès, est quelqu'un qui me dit, mais moi, je ne suis pas du tout pratiquant. Je ne crois pas, mais il faut que cette mosquée se construise. Voilà. Et ça n'est pas rare. J'ai appelé ça dans une recherche « socialiser l'islam ». Ils ont envie de voir l'islam bien accepté, présent et bien accueilli, indépendamment de leur croyance en l'islam. Ça, c'est quelque chose... ceux qui se croient, qui se sentent musulmans et qui disent « l'islam est important pour moi », ne sont pas pour autant que musulmans. Et nous, notre rapport, on l'a intitulé « Les Marseillais musulmans ». Pour bien dire, c'est des Marseillais. C'est des Marseillais, c'est des hommes et des femmes, c'est des gens jeunes et des gens vieux, etc. Et ils sont aussi, pour certains, ils se sentent aussi musulmans. Mais dans les, quand on teste les identifications, ce qui vient en premier parmi les adultes, c'est la famille. C'est la famille qui est affichée comme l'élément le plus important qui vous définit. C'est la famille. Et c'est la même chose pour toutes les origines de population, que ce soit la population majoritaire ou la population issue des flux migratoires, c'est pareil. Dans les milieux populaires, c'est la famille qui est l'élément identifiant mis en avant le plus. Et puis après, l'âge, le sexe, etc. Mais y a-t-il des perturbations de l'ordre scolaire pour, en relation avec l'islam ? Ben, très très peu. Moi, je crois qu'on peut dire très peu, on en rediscutera, donc je saute. Mais à ma connaissance, très peu. J'ai vraiment essayé d'en trouver, mais sur Marseille, je n'ai pas vraiment trouvé. Même, je dirais de façon surprenante, on a trouvé à Marseille, par exemple, que les gens... les patients hospitalisés dans les hôpitaux marseillais ont droit à des barquettes cachères quand ils sont juifs et n'ont pas droit à des barquettes halal quand ils sont musulmans et pas à des barquettes cachères non plus, alors qu'au départ dans l'armée les gens avaient droit à des barquettes cachères quand ils étaient musulmans, le cachère étant plus exigeant que les contraintes du halal. Et puis ensuite on leur a fait des barquettes halal maintenant dans l'armée. Dans les hôpitaux de Marseille, il y a des barquettes cachères, il n'y a pas de barquettes halal. Y a-t-il de la demande pressante des familles en disant, bah, regardez les autres, ils en ont et nous on n'en a pas. Eh bien non. Y a-t-il dans les cantines à Marseille une demande pressante pour avoir des repas sans porc ? Non. Non, il n'y a pas de demande pressante. Les gens, ils préfèrent ne pas manger plutôt que d'être sûrs qu'ils mangent sans porc. Mais il n'y a pas de demande pressante et la mairie, puisque c'est la mairie qui s'occupe des cantines dans le primaire et puis le conseil général, n'a pas pris d'engagement de dispenser les gens de manger du porc s'ils ne veulent pas en manger. Aucune formalisation d'une règle de bonne convivance, hein, qui consisterait à dire aux familles, rassurez-vous, ne mangeront pas de porc s'ils n'en veulent pas. Voilà. Rien, et pas de... Donc je dis, pas de problème. Pas de problème de type disciplinaire lié à l'islam. Les sorties scolaires, vous le savez, nous avons du nouveau. Donc, pourquoi la question ? La question, probablement, en relation avec la situation de l'islam dans le monde et l'imputation d'altérité radicale à l'islam, on peut en discuter. Deuxième point que je voulais aborder dans cette deuxième partie d'exposé, il y a des élèves musulmans. Le deuxième point concerne les dynamiques complexes de l'identité majoritaire. Comment l'appeler, hein ? L'identité nationale. Les dynamiques complexes de l'identité nationale. Les États-Unis disent « whiteness », le fait d'être blanc, se sentir blanc alors qu'il y a des noirs. Et les Anglais disent « Englishness », mais nous, on dit « identité nationale ». Les dynamiques complexes de l'identité nationale nous concernent à l'école. Il ne faut pas croire que l'école soit protégée de ces dynamiques-là, de se sentir un vrai Français par rapport à d'autres qui n'en sont pas. Elles existent. Et là encore, on a des thèses et on a des travaux sociologiques pour dire à l'école, les élèves, dans certaines conditions scolaires, hein, la façon dont les flux scolaires sont gérés a de l'importance pour activer ce sentiment de soi comme différent. Mais dans certaines conditions scolaires, on voit s'activer donc une appréhension de soi comme bien français, normal. Et normal, c'est catholique pour une bonne partie de nos élèves. Moi, une thèse d'un jeune italien qui a fait une thèse comparative entre la France et l'Italie en milieu lycéen, travaillant sur l'identification des majoritaires et qu'est-ce que c'est qu'un bon citoyen du pays. Trouve ça. Pour une partie des élèves majoritaires, être un vrai citoyen français, c'est quand même être catholique. Et plus souvent, figurez-vous, chez les Français que chez les Italiens. Du côté des agents de l'école, également, là, on s'aperçoit que l'identité française joue un rôle, et en particulier... Une bonne thèse du fait à l'Institut d'études politiques de Paris par Gérard Bozek, qui met ça en évidence, la gêne des gens, des instituteurs, des professeurs d'école, dans différents endroits. Elle a assez bien échantillonné son terrain. La gêne à l'égard d'élèves qui ont des appartenances nationales doubles, qui se sentent à la fois bien, ou en tout cas qui parlent à des grands-mères qui sont dans d'autres pays, puis qui sont ici. La gêne des enseignants à assumer cette bilatéralité des liens nationaux. Et elle met en évidence une conception assez hexagonale de la filiation nationale. Être français, c'est n'être que français. Ben, disons qu'ils sont à la fois français et autre chose, et qui finalement n'ont pas envie de prioriser telle ou telle appartenance, et se sentent les deux. Ça les met mal à l'aise, surtout quand on a affaire à des enfants qui sont l'objet d'une catégorisation sociale négative, comme c'est le cas de ceux dont nous parlons. Et puis, dernier point dont je voulais vous parler, c'est les missions de l'école. Les missions de l'école. Quelles sont les missions de l'école? Nous ne sommes pas tellement accablés de textes précis sur les missions de l'école. On peut tout de même se mettre d'accord sur l'idée qu'il y a des missions cognitives. L'école doit doter tous les enfants, tous ses élèves, de repères et de munitions intellectuelles pour être pour prendre leur place dans la société et la faire progresser d'un point de vue économique, être des membres actifs de la société, trouver un travail. Et puis d'autre part, elle doit doter chacun des connaissances et des dispositions nécessaires pour en faire des citoyens qui sentent une solidarité avec leurs concitoyens, des citoyens et des concitoyens, donc développer le lien social, développer le vivre ensemble. Sur la première question, les connaissances dispensées par l'école sont-elles suffisantes pour que tous les élèves, y compris les élèves majoritaires, situent correctement le monde tel qu'il est, et notamment la société européenne, la société française telle qu'elle est? On peut en discuter. L'éducation à la citoyenneté maintenant, l'éducation au vivre ensemble. Est-ce que tous les élèves sont préparés à ressentir des liens de concitoyenneté, de solidarité mutuelle, les uns avec les autres, selon leur identité sociale et culturelle et éventuellement religieuse? Là aussi, on peut en discuter. Mais je voudrais terminer en vous disant cette citation que j'avais trouvée dans un anglais d'origine indienne qui s'appelle Bhikkhu Parekh, qui est quand même lord anglais maintenant, et qui a dirigé le rapport sur l'Angleterre multiethnique en 2000. Donc c'est une dizaine d'années qu'il avait fait ce rapport. Et il nous donnait les réflexions suivantes que nous avions publiées dans un dossier de la revue Les Cahiers Pédagogiques. C'était une réflexion qui m'a paru très vraiment lumineuse pour les enjeux de l'éducation civique au sens fort du terme dans nos écoles. Et ce n'est pas à l'école directement qu'il pensait en formulant ses propositions, mais on peut vraiment les appliquer à l'école. Il disait: il faut qu'une communauté politique ait un sentiment commun d'appartenance pour former ensemble un ensemble solidaire et entretenir un régime de droits, d'obligations et de sacrifices qui constitue l'union nationale, la nation. Et il précise: le sentiment commun d'appartenance est un capital moral et politique vital pour une communauté. C'est pourquoi toute communauté politique doit trouver les moyens de renouveler et de garder vive l'allégeance et la loyauté de ceux qui risquent d'en être insatisfaits et de s'en détacher. Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est très fort comme réflexion, et ça nous amène à la conclusion de cet exposé sur: y a-t-il des élèves musulmans? Vous voyez qu'on peut répondre. C'est une question sensible, c'est une question dérangeante, c'est une question qui n'est pas facile à traiter techniquement, qui implique certains contenus qui sont largement absents pour l'instant de notre institution, qui implique une connaissance de nous-mêmes, que nous n'avons pas beaucoup, hein, la connaissance de qu'est-ce que c'est que l'islam, on continue à imaginer l'islam comme l'église catholique. C'est absolument pas ça. Donc, bon, la connaissance de l'islam et des musulmans nous manque énormément, à nous, les opérateurs de l'école, les agents scolaires, elle manque aussi aux élèves. Et par ailleurs, ce qui manque lorsqu'on se fige sur des positions rigide de refus de reconnaissance, lorsqu'on est dans un monde où la discrimination, le racisme est aussi puissant à l'égard d'une catégorie de gens qui sont ceux-ci, eh bien, on a quand même intérêt à reconnaître les blessures qui sont les leurs et le besoin que nous avons de les combler, de les penser à la fois eux, penser et à penser dans une perspective d'assumer nos responsabilités, de construire des citoyens et une citizenry, un ensemble de citoyens, un groupe de citoyens pour notre destin. Notre destin, dont on disait tout à l'heure, et vous le savez bien aussi bien que moi, qui n'a rien d'évident actuellement, hein, qui est extrêmement compliqué à envisager et à construire. Et on a besoin d'autant plus de citoyens qui soient forts dans leur tête.